La musique.
Caravana de maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus, t'as vu.
Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
I knew these people, these two people. They were in love with each other. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. He was kind of raggedy and wild. She was very beautiful, you know. And together they turned everything into a kind of an adventure. She liked that. Just an ordinary trip down to the grocery store was full of adventure. They were always laughing at stupid things. He liked to make her laugh.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, sur internet, partout ailleurs, via le site de la Fédération Anarchiste ou le site de la radio. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au duo Bruxelles. Alors Bruxelles, c'est Bruno Florence et Hugo Roussel. Alors on vient d'écouter Peace for Trevor, extrait de leur disque qui est paru à 20 exemplaires et sinon téléchargeable sur internet, intitulé Talking Ghost. On va en parler avec eux. Tout d'abord, j'aimerais préciser que je suis très heureux de vous présenter Bruxelles. En effet, Bruno Florence et Hugo Roussel, d'une part, et comme on l'évoquait la semaine dernière dans notre émission à propos d'Art Brut avec Barbara Safarova, parce qu'ils se revendiquent comme musiciens non professionnels, amateurs. Et ça nous intéresse parce que, bien du coup, ils sont détachés de contingences économiques et ils se permettent des choses, notamment d'être hors mode, hors marché. Ils jouissent d'une totale liberté dans le choix et dans la forme de leur musique, et ça c'est tout à fait appréciable, cette liberté, parce qu'il faut quand même bien le dire, même dans les musiques qu'on défend, un peu en marge, un peu hors norme, un peu, je ne sais quoi dire, expérimental si on veut, encore que le terme ne soit pas bien à propos. Musique, nous avons trouvé le terme pour désigner notre émission, musique singulière et expression curieuse. Voilà, dans la musique singulière, il y a également des modes, hein, il faut bien le reconnaître. Et Bruxelles se situe tout à fait en dehors de ça. On explicitera pourquoi. Je pense, moi, c'est notamment par une approche quelque peu performative de Bruno. Il nous en parlera. Autre raison pour laquelle on est content de faire une émission qui leur est consacrée, tout simplement parce que leur concert au Festival Densité, en compagnie du chanteur Steve Gander, fut sans doute l'un des meilleurs, à mon sens, et en tout cas celui que j'ai préféré. Et justement, merci à Emmanuel Pellegrini pour son accueil au Festival Densité. Nous avions reçu Emmanuel en septembre dernier. Merci également d'avoir organisé tout simplement le festival. Merci à son équipe, toute son équipe, Xavier, Charles, Charlotte et également Jean-Philippe Gross. J'espère un jour faire une émission avec Jean-Philippe en tant que musicien. Là, il faisait partie de l'équipe de Densité. Alors, on va sans plus tarder écouter la première partie de l'interview de Bruno Florence et Hugo Roussel. Alors bonjour Bruno, bonjour Hugo,
bonjour.
Deux membres du duo Bruxelles. Bravo pour votre excellente performance au Festival Densité. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, on a commencé l'émission avec un premier morceau qui s'intitule « Peace for Trevor » avec la voix de Trevor Anderson. J'ai cherché sur Internet, il y a plein de Trevor Anderson et donc j'aimerais que vous nous disiez qui est ce Trevor Anderson.
Alors Trevor Anderson, c'est le personnage principal dans Paris, Texas, qui est interprété par Dean Stanton, je ne sais plus le nom, Harry Dean Stanton, je crois. Et donc oui, c'est le personnage principal dans Paris, Texas. Mais quand on a intitulé la pièce, on préférait que ce soit le nom du personnage et pas du comédien, en fait.
Alors déjà, on parle de cinéma. On va y revenir, mais avant tout on pose toujours la question dans l'émission. J'aime bien cette question parce que les auditeurs aiment, je pense que c'est intéressant de savoir d'où vous venez musicalement. Comment en êtes-vous venu à jouer de la musique, et aussi avez-vous bénéficié d'un enseignement musical?
Ça dépend de chacun, en fait. Moi, j'ai bénéficié, Bruno, j'ai bénéficié d'un enseignement musical, effectivement.
Ouais.
Mon enseignement musical a évolué au fil du temps, effectivement, à travers mes rencontres,
ouais.
Surtout à travers la rencontre du Centre Malraux et effectivement de Dominique Répéco,
ouais.
Et des gens autour du Festival Musique Action, ouais. À travers des gens comme Thierry Madio.
Alors ça veut dire que tu as fait des études de conservatoire, des choses comme ça,
ouais. Au départ, j'étais pianiste, en fait.
Ah ouais.
D'accord.
Ma première formation, même pas ma première formation, c'était une formation d'organiste.
Dis donc, ouais.
Ouais, organiste de... Enfin, organiste d'église, en fait.
Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais. Et je sais que tu as joué de l'accordéon aussi.
J'ai joué de l'accordéon, mais je n'étais pas accordéoniste, en fait.
Ouais, t'as vraiment... pas eu de formation sur
l'accordéon ? Non, j'ai jamais eu de formation. J'ai pratiqué l'accordéon dans la rue, en fait.
Ah oui, d'accord. Et toi, Hugo ?
Alors, moi, on se rejoint un moment avec Bruno. C'est, quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais un prof de vidéo qui s'appelait Dominique Petitgand, qui du coup était en lien aussi avec le CCAM et qui m'a envoyé au CCAM voir ce qui s'y passait, notamment en musique action. Donc de là, en fait, une rencontre un peu marrante avec Dominique Repeco, puisque j'étais allé pour un concert avec Lira Naldo qui avait été annulé. Et je me souviens que Dom m'a dit « mais va voir autre chose ». Et du coup, j'ai pris une vraie claque. Et je me souviens plus, c'était un trio de free très... je me souviens plus. Et je me suis dit « tiens, en fait, on peut faire de la musique aussi comme ça ouais. ». Parce qu'avant, on était dans, comme un peu beaucoup, en fait, dans des groupes de rock, ouais. Rock punk, etc. Et puis là, c'était vraiment la claque... qui m'a dirigé vers les musiques improvisées. Et c'était à peu près 2-3 ans avant qu'on se rencontre tous les deux avec Bruno au CCM, en fait, pour la première fois.
Oui, parce que en fait, on a commencé à faire de la musique ensemble au sein d'un grand ensemble, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Un grand ensemble d'improvisation qui s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, je ne sais plus, en fait. C'était Dominique qui avait lancé ça au Centre Malraux. Et il y avait Jean-Philippe Gros, d'ailleurs, aussi. Ouais. Il y avait des gens comme ça, en fait. C'était nouvelle génération de musiciens, ouais. En fait. Et ensuite, on a décidé plus tard, beaucoup plus tard, en fait.
Et donc, ça fait combien de temps que vous jouez en duo ? Enfin, en duo, ensemble ?
Tous les deux ?
Ouais.
Ça fait 4 ans, à peu près. Je dirais, ça fait 4-5 ans.
Ouais, 4-5 ans.
Ouais, 4-5
ans.
À peu près, ouais.
Et alors, avant, vous avez eu... Enfin, toi, je sais, Bruno, tu as eu un parcours musical dans d'autres formations. Mm-hmm. Est-ce que tu peux en dire un mot ? Je pense à 60 étages, notamment.
Bah, moi, Dominique m'avait invité, suite à ces ateliers-là, un jour, il m'a proposé un jour de participer à un projet de disque qui s'appelait ASBL,
ouais.
Avec Jérôme Nottinger, avec des gens comme ceux-ci.
Ouais.
Et donc, j'ai eu beaucoup peur ce jour-là d'ailleurs. Et ensuite, ma foi, j'ai participé donc à 60 étages. Ensuite, j'ai fait des projets solo aussi, et voilà. En fait, j'en suis arrivé à ça. Quoi, en fait.
Et toi, Hugo ?
Alors moi, c'était parallèlement aux Beaux-Arts, avec un copain, on avait monté un label de musique improvisée.
Ouais.
Qui s'appelait Priscilla Records à l'époque. Et on faisait surtout des CDR et des cassettes de production de jeunes improvisateurs. Et on se connaissait avec Bruno, en fait, puisqu'on côtoyait la même scène, en tout cas au niveau local. Nous, on faisait des productions à droite à gauche comme ça. Et puis voilà, c'est... Et c'est, oui, il y a 4-5 ans seulement où on s'est dit avec Bruno, ça serait vraiment bien qu'on joue ensemble. Moi, parce que j'avais fait aussi une pause vers 2003, j'ai arrêté un moment. Et puis, entre 2003 et 2006, quoi. Et après, on a repris avec Bruno.
Et Dominique nous avait donné aussi l'occasion, un moment, à Hugo, au départ, et puis ensuite, on s'est mis tous les deux à faire ça, de faire un festival off. Au festival Musique Action qui s'appelait le festival pour 30 chaises, qui nous a permis aussi de jouer avec un musicien invité du festival, sur quelques jours du festival, ce qui nous a permis aussi de rencontrer d'autres musiciens.
C'est vrai que vous êtes tous les deux à l'origine de ce festival, dans ce festival Musique Action 30 chaises,
avec d'autres.
J'aimerais bien que vous décriviez un petit peu, parce que c'est pas évident à l'écoute, vos dispositifs. Toi, Hugo, c'est assez classique, tu joues de la guitare, bon, avec des effets.
Mm-hmm.
J'ai vu que tu jouais de la guitare un peu entraînant, ta guitare par terre, enfin bon, ça c'est... Ça... Par contre, Bruno, c'est un peu plus singulier, on va dire. Est-ce que tu peux décrire ton...
Mon dispositif, il a évolué en fonction du dispositif d'Hugo, en fait.
Ouais.
Au départ, moi, je ne suis pas guitariste du tout.
Voilà.
Je ne sais pas jouer de guitare. Je me suis adapté au dispositif d'Hugo en mettant au départ d'abord un micro-contact sur une guitare. Voilà. Je ne connaissais pas l'amplification.
Ouais.
Je ne savais pas ce que c'était que l'amplification. Je jouais beaucoup de musique acoustique. Donc, il a fallu déjà que j'appréhende l'ampli.
Mmh.
Ensuite, voilà, ensuite, j'ai donc quand même gardé les éléments acoustiques, puisque j'aimais beaucoup l'acoustique quand même. Donc, ça reste quand même quelque chose d'électro-acoustique.
Ouais.
Voilà. Donc, ensuite, j'ai donc autour des objets. Donc, au départ, donc, je gardais quand même un micro.
Mmh.
Autour, mais ensuite au final j'ai épuré tout ça pour ne garder que la guitare et mettre les objets sur la guitare et sur le micro acoustique, enfin le micro contact et voilà ces choses là et tout en aussi en essayant parfois d'amener de la voix ou d'amener une trompette ou d'amener d'autres choses comme
ouais,
ça.
La trompette, voilà. L'harmonica également, j'ai
l'harmonica
vu.
Voilà.
Et ça, il y a aussi une particularité, c'est que tu joues au sol.
Bah, le fait de jouer au sol, c'était plus simple, parce que comme je ne sais pas jouer de guitare, je ne pouvais pas la mettre sur c'est juste une histoire de facilité pour moi, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est juste une histoire de... C'est essayer d'être le plus... que ce soit le plus simple possible pour moi, en fait.
Ouais. Alors, donc, tu n'es pas... Tu viens de dire que tu n'as pas appris à jouer de la guitare. Est-ce que le fait d'être autodidacte, quelque part, même si tu as eu des cours d'orgue et tout ça... Est-ce que ça a pour vous une signification? Est-ce que ça influence votre musique, votre travail? Ou bien pour vous, c'est pareil? C'est comme si vous aviez été au conservatoire, faire des années de guitare, vous joueriez pareil?
Ma formation musicale influence ma musique, ça
ouais.
C'est clair. Parce que de toute façon, il y a quand même une part de musicalité. Je ne peux pas, m'en défaire de la musicalité qu'il y a dans... ce n'est pas l'improvisation pure, je ne pourrais pas dire ça. De toute façon, il y a toujours une part d'harmonie.
Mmh.
C'est ce que je garde quand même ça. De toute façon, mon oreille elle a une part d'harmonie de toute façon qui reste là.
Mmh.
Donc tout est harmonique dans ce que... Il y a une part d'harmonie. Je suis en harmonie avec Hugo, mmh. de toute façon. Après, Hugo, je ne sais pas comment lui, il voit ça... C'est parfois, effectivement, moi, je vais trop là-dedans, en fait. C'est des fois Hugo qui me dit... Ah, voilà. Je sais pas comment...
Mmh. Par rapport à la formation musicale, moi, j'en ai pas eu, en tout cas, de manière classique, ouais. dans une école, etc. Après, ma formation, elle est... à travers tous les disques que j'ai écoutés, forcément, quelque part, c'est des influences qu'on a et qu'on essaye de reproduire à un moment ou à un autre, quoi. Après, par rapport à notre jeu, tous les deux, moi, en fait, ce que j'aime développer avec Bruno, c'est des histoires de textures sonores. Donc, effectivement, des fois, j'ai un peu de mal quand on est trop sur un truc purement rythmique, parce que... ce que je préfère qu'on bosse tous les deux, mais sans imposer à Bruno quoi que ce soit, mais c'est plutôt des atmosphères que des morceaux de limite de rock entre guillemets, enfin tu vois, avec, même si ça, de toute façon sa rythmique elle devient tellement hypnotique que ça devient une texture elle-même.
Alors je voulais vous demander, comme j'ai posé la question tout à l'heure, qui est Miles Siletti? À qui dédié le deuxième morceau de Talking Ghost?
Alors ça, c'est un disque, un CD que j'ai trouvé dans un comment on appelle ça, les disquaires d'occasion,
ouais.
Par hasard en fait, et apparemment ça serait un poète qui bosse à Hollywood, qui est, si j'ai bien compris, monteur à Hollywood de films. Et en fait, donc il écrit des textes par rapport à ça, à tout ce milieu des starlettes et des une sorte de, si j'ai bien saisi son univers, une sorte de Bukowski de hollywoodien comme ça, de avec des histoires de drogue, d'alcool et de starlettes, voilà. Et en fait, j'ai découvert ça par hasard, et j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des infos sur lui.
Effectivement, j'ai aussi, je suis pas trouvé.
Je sais qu'il a fait un projet avec un mec qui fait de la dance, enfin une espèce de musique électronique vraiment très dance. Mais c'est le seul truc, j'ai jamais réussi à trouver son contact. Donc voilà, c'est les seuls éléments que j'ai. Je crois que sur le disque, de toute façon, on a crédité le nom complet de l'album. Donc la plupart sont des poèmes ou des textes qu'il lit. Tu sais, ce mouvement-là des poètes et des écrivains qui ont enregistré aussi une version dite de leur texte.
Eh bien, on écoute. Vous avez réalisé cet enregistrement de titre Talking Ghost pour en tirer un CDR, donc un CD enregistré, pas gravé, quoi, à 20 exemplaires. Pourquoi ce choix ?
C'est compliqué.
Alors c'est compliqué et simple en même temps. En fait, à la base, on voulait faire pour Musique Action, on voulait sortir des cassettes. Moi, il me restait un stock de cassettes de 10 minutes par face, enfin de 2 fois 10 minutes.
Ah,
et il m'en restait 20. Donc, on a enregistré ces deux pièces-là pour les mettre à la base sur ces cassettes. Sauf que on a galéré parce que nos enregistreurs de cassettes étaient complètement foutus et qu'on n'a pas réussi à faire la duplication sur cassette. Ce qui fait que du coup, on a gardé la quantité, c'est-à-dire 20 exemplaires, mais que pour des raisons purement techniques, on a dû le faire sur un CDR. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a ridicule CDR de à peu près 12 minutes. mais voilà, c'était à la base, c'était le format cassette qu'on voulait faire.
Mais alors ça en dit un peu, ça parle de votre rapport au fait de s'enregistrer, de sortir des disques un peu. Qu'est-ce que c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça signifie de sortir un disque finalement?
Pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur de sortir un disque. Ça n'a pas beaucoup. Sortir un disque pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait.
Ouais.
Non. Je sais pas. Moi, je suis content de voilà, je suis content que ce soit fait, je suis content de le réécouter. Mais en même temps, sortir un disque, il y en a déjà tellement qui sortent de toute façon que. Bon, je préfère jouer, je préfère faire une performance.
Bon, oui.
Et effectivement, après faire un disque, j'aime le fabriquer, mais une fois qu'il est sorti, à la rigueur, je m'en moque totalement.
Toi, Hugo ?
Moi, je vois, en fait, au-delà du côté, après. Vendre un disque, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans le disque, c'est que ça fige à un moment. C'est des étapes, comme un carnet de notes, en disant voilà, on en est là maintenant. Et quand on écoute Ars Kiri, qui est le premier, et celui-ci, oui. On voit déjà qu'il y a une sorte d'évolution dans l'ambiance. Et pour moi, en fait, c'est très égoïste finalement. C'est que ça permet de noter les différences et l'évolution d'un projet. Et c'est en ça que moi, ça m'intéresse, en fait. C'est vrai qu'il y a toujours ce questionnement, en fait. La musique improvisée, doit-elle être fixée? Mais ça fait des années et des années qu'on entend parler de ces questions-là. Moi, j'envisage plus comme... voilà, un point, un moment, c'est enregistré. Voilà, ça c'est fait, on peut passer peut-être à autre chose, ou c'est une étape plus comme un carnet de notes, en fait.
On passe à autre chose. Mais, et alors, tu viens d'expliquer que, en fait, c'est de la musique improvisée. Mais comment vous décidez, comment vous avez travaillé, par exemple, pour Ars Kiri? Est-ce qu'il y a une trame? Est-ce qu'il y a une direction? Vous vous mettez d'accord sur un truc? Ou c'est de l'impro total et puis on y va et puis on voit ce qu'il en sort?
C'était compliqué à Ars Kiri parce que c'était tout au début en fait qu'on a commencé à jouer ensemble, donc on savait pas du tout où on allait.
Ouais.
Hein, donc au début, en plus moi je jouais pas du tout comme Hugo.
Ouais.
Il a fallu jouer très, enfin il a fallu qu'on se rencontre déjà, qu'on ait un langage commun avant d'en arriver à ça. Enfin, donc on a eu énormément d'heures d'enregistrement en fait.
Ouais.
Moi je pensais pas du tout qu'on allait monter au final cette chose comme ça en fait. Et moi je fais du montage audio d'une autre manière pour ma part, parce que je fais du montage audio d'une autre façon. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai laissé Hugo faire ça. Et Hugo a fait totalement différemment. C'est-à-dire que lui, il a pris les enregistrements, il a gardé juste les choses les meilleures en fait, de ses heures d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout écouté. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais. Et je pense que c'est bien parce que ça a permis vraiment de garder vraiment que des petits moments, ce qui permet de laisser vraiment que des petits morceaux. C'est pour ça que c'est vraiment des plages assez courtes en fait, plutôt que des grandes improvisations.
Merci.
Et du coup, si ça avait été moi qui l'avais monté, ça aurait été complètement différent et je pense que ça aurait pas été si bien. Enfin, peut-être, voilà. Moi, j'aurais mis les trucs l'un au-dessus de l'autre, j'aurais tout remonté. Alors que là, ça reste brut et c'est peut-être le fait que ce soit brut qui permet quelque chose d'assez original en fait.
Je dis merci en plaisantant parce que moi, je suis pas forcément fan des morceaux qui durent 40 minutes et des histoires comme ça. Là. Et là, effectivement, il y a, je sais pas, une dizaine de morceaux de 5 minutes à peu près. Et pourtant, en le réécoutant, je me suis dit, il y a vraiment une cohérence, quoi. Il y a vraiment... Enfin, ça s'écoute comme une suite, quoi.
Ouais, en fait, c'est Hugo qui a vraiment fait ce montage, en fait. La première fois où il m'a fait écouter ce montage-là, j'étais un peu surpris, en fait. Ouais. Même, surpris de... Et un peu dubitatif, en fait, de... Voilà.
Enfin, c'est pas un montage, c'est un ordre de piste.
Un ordre de piste, ouais. Parce que
moi, je voulais juste dire par rapport à ce disque-là, c'est que les débuts et les fins de chaque morceau sont faits comme ça, en fait. C'est pas des trucs où j'ai baissé le volume pour faire. C'est vraiment les prises quand même. Bon, après, les choses s'enchaînaient, etc. Mais les fins sont des fins et débuts sont des débuts. Ouais. Et il n'y a pas effectivement de réenregistrement dessus. C'est vraiment la prise brute telle qu'on l'a jouée. Ouais. Mais effectivement, c'est des échantillons d'heures et d'heures de jeu tous les deux.
Voilà, et même ce qui s'était passé, c'est-à-dire que quand il y avait eu le montage, après, quand il y avait le studio derrière, on avait demandé donc à une personne qui était venue. Elle avait refait des fade-out et des fade-in, ouais. Et on avait dit non, surtout pas. Il faut laisser vraiment la matière brute, parce que du coup, il enlevait toute l'originalité de la pièce originale, quoi.
Et on voulait que ça reste un peu rêche, comme ça, le côté, oui, brut du son. Après, par rapport à l'homogénéité des morceaux, je pense qu'en fait, on s'est petit à petit, on a commencé à créer vraiment une atmosphère qu'on voulait. Et c'est vrai qu'elle se ressent. Bon, il y a des morceaux un peu différents, mais... Je crois que c'est en fait le truc commun, c'est qu'effectivement on a trouvé une sorte d'atmosphère qu'on voulait tenir du début à la fin.
C'est indéniable. Et, on va écouter un morceau et c'est presque dommage d'écouter qu'un seul morceau et pas d'écouter l'ensemble. On encourage les auditeurs à acquérir votre disque. Tu parlais d'atmosphère et alors effectivement j'ai noté sur votre site, vous faites référence à des paysages sonores. Vous parlez de bandes originales de western finlandais pour le disque donc à Askeri. Effectivement, moi, ça me parle beaucoup. On imagine bien cette musique accompagnée des images. Est-ce que vous l'avez fait, d'ailleurs, d'accompagner des films? Est-ce que c'est une suite logique du... Est-ce que Bruxelles accompagne des films? Est-ce que ça se fait?
On a eu l'occasion de le faire une fois.
Ouais.
Voilà. Mais à titre vraiment...
Très exceptionnel.
Très exceptionnel. Ouais,
et puis sur un court métrage, enfin un film de 10 minutes, donc c'est pas très représentatif. Moi, enfin après parce que Bruno lui a déjà vraiment travaillé pour, donc je pense il en parlera après. Mais en tout cas pour Bruxelles, je pense que le fait juste d'évoquer que ça peut coller à des images, c'est aussi pour dire que ça évoque, enfin ça crée dans la tête des gens peut-être des images ou en tout cas des ambiances. Et je pense qu'il faut juste s'arrêter là. Si on jouait sur un film, à part un film expérimental de Len Lai ou quelque chose comme ça, de non figuratif, ça pourrait peut-être le faire. Mais le but, c'est que c'est juste de dire que cette musique-là peut provoquer. Des images dans la tête des gens, en fait, que ça peut devenir figuratif, mais que nous en tout cas on se refuse à être figuratif, en tout cas dans les sons qu'on produit.
Et alors pourquoi la Finlande? Vous parlez de la Finlande et puis Askeri et puis il y a des titres alors en mauvais finnois, hein, parce que moi j'ai essayé d'apprendre le finnois, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Vous auriez pu vous renseigner ou au moins ouvrir un truc à 6000. Mais pourquoi la Finlande? Je sais pas, c'est le lancer de javelot? C'est quoi qui vous intéresse dans la... Pourquoi la Finlande? Vous vous êtes dit ça comme ça?
Non, en fait...
Est-ce que vous pensez que c'est une musique froide?
Non, c'était pas ça, en fait. L'idée, c'était qu'il y avait une exposition au Centre Malraux. La pochette du disque, en fait, on s'est même trompé, je crois.
Ah, mais on ne s'est pas trompé, c'est juste qu'on savait que ce n'était pas ça.
On savait que ce n'était pas ça. En fait, il y avait à ce moment-là, au Centre Malraux, un photographe qui s'appelle Jean-Yves Camus, qui avait donc fait des photographies...
En Islande.
En Islande. Et un jour, Hugo me dit, voilà, cette photographie-là pourrait être la photographie de la pochette. Ah oui. Et je dis, ah oui, effectivement, ce serait bien. Sur la photographie, c'est une maison, donc, et sur la maison, il est écrit Askeri.
Ah oui,
Askeri, ça veut dire coiffeur. Et on s'est dit, bon, ben voilà, pourquoi pas, voilà. On a demandé au photographe, Jean-Yves, et il nous a dit, oh ben oui, moi je vous offre gentiment la photographie, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était juste une plaisanterie, en fait.
Oui, voilà. Après,
on a rigolé autour de ça, et voilà, on a joué autour de ça, en fait.
Tous les titres du disque veulent dire coiffeur, et on a juste utilisé Google Translate pour avoir en tunisien, en turc, donc du coup, forcément, c'est faux en fait, mais c'est tous les titres veulent dire coiffeur dans des langues complètement différentes, mais des trucs complètement improbables qu'on a trouvé en albanais, enfin tout ce que Google proposait, et puis après on a sélectionné ceux qui nous semblaient être les plus marrants ou les plus complètement barrés en fait, et en même temps c'est pareil, c'est encore un délire parce que quand on a fait le disque, on a tous les deux des têtes improbables avec nos coupes de cheveux, et du coup ça nous a fait rigoler de partir là-dessus. Après c'est toujours pareil, c'est que on galère toujours pour trouver un nom de groupe, et quand on sort un disque c'est des titres qui viennent pas forcément automatiquement, donc on s'est dit allez hop, on part là-dessus, et puis et ça fait partie des conneries.
Mais pour autant, quand même, la Finlande et ce délire-là, moi, ça m'évoque des films, quoi, Kikoris Maki, des choses comme ça, et puis des bouquins, pas Silina. J'imagine que vous avez ces références-là aussi.
Bah, effectivement, au final, quand on a écouté, on s'est dit, mais oui, effectivement, ça marche.
Ouais,
ça va avec, ouais, quoi. Clair, ouais.
Mais quand on parlait de western finlandais, c'était justement peut-être mélanger aussi le côté cow-boy solitaire, mais en même temps pas forcément dans un désert ou quelque chose comme ça, et de croiser avec les histoires de Pasalina où c'est toujours quelqu'un qui en a marre et qui est en rupture avec la société.
Ou le cow-boy de David Lynch, quoi. Celui qui est toujours dans un coin et qui...
Il y a un croisement avec tous ces espèces d'images du cow-boy, sauf que voilà, c'est pas... C'était plus une blague où, encore une fois, c'était juste donner des pistes. Donc, western d'un côté, finlandais de l'autre. Des pistes peut-être pas forcément cohérentes l'une assemblée à l'autre, mais voilà, qui pouvaient ouvrir sur l'imaginaire. Donc là, on peut quand même le dire, c'est Ars Kerry n'est pas du tout un film qui existe.
Pourtant, certains y ont cru.
Et notre disque n'est pas du tout la BO du film...
Bah, je propose qu'on écoute un extrait de l'album Ars Kerry de Bruxelles. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au duo Bruxelles, Bruno Florence et Hugo Roussel. Nous venons d'écouter Ile Apaindeja, extrait de leur album Arskeri. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview que nous avons réalisée au Festival Densité en octobre dernier, fin octobre.
Vous avez des références littéraires, cinématographiques, on en a parlé avant d'écouter l'extrait de votre album. Et qu'en est-il des références musicales? Et notamment, j'aimerais bien que vous m'explicitiez ce qu'est le psyché pop blues.
C'est toi qui as dit ça.
Non. Encore un malentendu.
C'est défaut, ça.
Non, et ça, ça doit venir de Dominique, d'ailleurs, Repeco. Mais c'est encore une fois, il y a beaucoup de conneries derrière, et c'est pas c'est juste, c'est vrai que d'agglutiner comme ça des psyché post blues, c'est ça devient complètement ridicule à force de, et mais en même temps il y a quelque chose, enfin pour Dominique effectivement c'était il trouvait qu'il y avait un côté psychédélique dans la musique. Nous, on revendique, même si on n'en fait pas du tout, on revendique le fait qu'on fait du blues. Mmh. Mais dans le côté, c'est tout le côté un peu sombre du blues, en fait. Mais même pas au niveau musical, mais tout ce qu'il y a autour du vaudou, tous ces trucs un peu... on n'est pas du tout mystique, etc. Mais c'est des trucs qui nous fascinent aussi un petit peu, en fait. Et je pense que le côté sombre qu'on a dans la musique... même si on n'est pas, on est plutôt à faire la fête que à être déprimé, etc. Mais je sais pas pourquoi on fait de la musique comme ça, en fait. On n'est pas, alors qu'on est joyeux. Mais c'est juste un attrait qu'on a. C'est pas une fascination morbide ou quoi que ce soit. C'est juste que on se retrouve là-dedans, en fait. Je pense que peut-être que si, et c'est le cas d'ailleurs, si on avait chacun d'autres projets, on serait pas là-dedans. Je pense que c'est la réunion de nous deux, nos deux sensibilités, qui fait qu'on arrive à quelque chose de lourd, crépusculaire, comme disait Anne Montaron. Donc voilà.
Et sinon, vos références musicales, parce qu'on a parlé de livres, de films, qu'est-ce que ce serait
Moi, les références, j'aime pas avoir de références musicales, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Moi, je veux bien écouter. Enfin, j'écoute autant de musique classique que de musique improvisée, que de musique électroacoustique, que de musique électronique, que de chansons françaises. J'adore écouter Radio Nostalgie dans ma voiture, quoi. Je veux dire, les références, elles sont de tout, elles vont de tout à tout, quoi. Ouais, ouais. Je ne m'empêche pas d'avoir des références de Joe Dassin à Captain Beefheart, en passant par c'est des références assez bizarres, mais
mais en même temps
moi ça me parle.
Voilà, je veux dire que par là que j'aime pas les cases, en fait.
Après, qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, qu'une référence? Si c'est quelque chose qui te permet de cultiver ta propre culture de ta musique, etc., moi, je trouve que... Mais c'est pas forcément, si t'es musicien, qu'une culture musicale. Enfin, je veux dire, effectivement, le fait de... les films que tu vas voir, les bouquins que tu lis, vont aussi forger ta pratique musicale après, ou si t'es plasticien, ta pratique en tant qu'artiste plasticien, etc.
Parce que... Pardon. Moi aussi, c'est ce qui se passe, c'est que, par exemple, dans la façon dont je joue, c'est pas que la musique, c'est aussi la performance.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'aime la performance. J'ai fait partie de compagnies de théâtre de rue. J'ai fait partie de. Ouais. Et la performance, pour moi, a une part vraiment importante aussi. Le fait de jouer vraiment de le corps, en fait, faire taper des trucs au sol, et même de casser des choses.
Il y a une tension.
C'est-à-dire que si j'étais juste musicien instrumentiste, je pense que ça ne marcherait pas comme ça. Je pense que je ne jouerais pas comme ça. Voilà, c'est vraiment le corps en lui-même qui est important. Donc c'est la performance en elle-même, quoi.
D'où cette... parce qu'on t'a vu déjà casser des guitares et...
J'ai cassé, ouais, j'ai dit, bon, une guitare, oui, j'ai dû en casser une ou deux. J'ai cassé un accordéon.
Donc c'est ça, ça vient de ça, ça vient de...
Ouais, j'aime bien, j'aime ce côté... Bon, des fois, j'en casse sans faire exprès, mais... encore hier soir, j'ai pas fait exprès de casser quelques trucs, mais c'est peut-être des fois que je suis pas assez...
Bah, ça rendait bien. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le centre culturel André Malraux, Dominique Répéco, et bah, vous êtes proche de cette structure. Et aussi, moi, j'aimerais bien vous demander votre avis, votre impression, ce que vous pensez de ces scènes, parce que vous côtoyez pas mal de musiciens des scènes improvisées, expérimentales. Quel est votre regard sur ces musiques actuellement?
Sur ces musiques? Qu'est-ce que tu entends par là?
Moi, j'entends qu'il m'arrive de m'ennuyer parfois dans certains festivals. Et je trouve qu'il y a une propension à aller vers le dépouillement, une espèce d'ascèse. Et puis voilà, c'est ce qui se fait. Et puis finalement, l'auditeur est censé rentrer dans ce jeu-là. Moi, j'étais très content.
Le manque de mise en danger des programmateurs, moi, je dirais.
Il y a ça, oui.
Voilà, moi, c'est surtout ça, moi, qui me fascine grandement. C'est-à-dire que peu de gens ont l'audace d'inviter quelque chose qui ne... Voilà, qui... Voilà, c'est... Enfin, c'est peu de... Oui. Peu de programmateurs osent inviter des projets comme le nôtre, par exemple.
Ouais,
moi, je voilà.
Pourtant, c'est dommage. Et oui, ça veut dire quoi au niveau institutionnel, il se passe quoi? C'est un manque de fric, mais en même temps, je ne vois pas comment l'intérêt...
C'est pas une histoire de manque de fric, je pense que c'est plus une histoire de... est-ce que ça va ramener du public?
Ouais, enfin, moi, je fréquente des lieux où il n'y a pas forcément beaucoup de public.
Oui, manque de fric, alors je ne sais pas. Manque de... Je sais pas.
Ouais, après, c'est toujours le problème des institutions, c'est que c'est des institutions politiques.
On n'est pas connu, quoi, de toute façon. Et... Donc, je veux dire, manque de... Voilà, pas... Je crois qu'il y a ça. Et puis, il y a peut-être aussi le fait que... Je suis très... est-ce qu'on n'est pas aussi... parce qu'on fait ça d'une façon amateur et pas professionnelle.
C'est ma question suivante. Oui.
Ouais. Il y a aussi ça. On n'est pas des professionnels, on est des amateurs. Nous aussi, moi, j'en suis...
Qu'est-ce que ça change, ça, justement?
Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même une part de... le fait de faire ça en forme d'amateurisme.
Hugo, tu es graphiste, je crois. Bruno, tu travailles au centre Malraux.
Ouais,
donc vous n'êtes pas financièrement tributaire de la réussite de Bruxelles.
Non.
Enfin, je pense que ça a quand même une influence sur...
Ouais.
Justement, moi, ce que j'ai écouté hier, j'ai beaucoup aimé parce que ça change de ce que j'entends ces temps-ci dans les festivals.
Ça, c'est toi qui le... Voilà.
C'est un truc c'est un truc à double tranchant, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on cherche pas absolument à trouver des concerts, etc. Mmh, ouais. Donc c'est pas, mais de l'autre, je sais que des fois on aurait envie d'accorder un peu plus de temps à bosser tous les deux ou individuellement sur notre pratique de l'instrument. Donc c'est, je dis pas que on est, il nous manque, parce que notre expérience, ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années qu'on est dans ces musiques-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la pratique de notre instrument comme des musiciens dits professionnels.
Ouais, bien sûr.
Mais en même temps, on n'a pas toute la pression que eux ont. À effectivement devoir s'inquiéter de trouver des concerts ou des c'est pas du tout péjoratif c'est aussi un système économique, il faut bien que qui paye leurs factures et leur bouffe, etc. Donc c'est, pour moi, c'est ni bien ni mal, c'est juste une autre manière de voir la pratique musicale.
Et donc ça a une influence sur votre musique?
Non.
Non? Vous feriez la même chose si vous étiez...
Qui sait? Qui sait?
Est-ce que je ferais la même chose si j'étais professionnel.
Est-ce qu'il y a un regret de ne pas être professionnel? Est-ce que vous...
Non, moi j'ai eu à choisir à un moment. Ouais. Moi, il y a eu des gens, j'ai fait partie d'une compagnie de théâtre qui m'ont demandé de choisir. J'ai fait le choix, j'ai dit non, je ne veux pas. Mmh. Moi, ce n'était pas mon choix en fait de devenir artiste. Enfin, voilà. Mmh. J'avais pas envie. J'avais déjà pris un autre chemin, quoi. Mmh. Mais je savais que de toute façon, à côté, je ferais toujours soit de la musique, soit d'autres, ce genre de choses-là. Mais c'était pas. Je n'en vivrais pas.
Ouais.
Voilà. Mais je voulais toujours quand même avoir le temps, les moyens, me donner les moyens de le faire, quoi. Mmh. De temps en temps, régulièrement. Voilà, je pense que c'est important.
Eh bien, dans ma vie, je crois que nous, on aime bien cette démarche-là, la démarche des amateurs. Ce qui, on aime bien les professionnels aussi, mais on aime bien, dans notre émission, qu'il existe, qu'il y ait cette possibilité-là de ne pas en vivre de la musique. Et je vous propose d'écouter donc votre disque. Je suppose que vous n'en vivez pas de votre disque.
Non.
Un extrait de Ars Kelly, donc.
Voilà, c'était Padam, non, Pan Dam Dam Rambut, extrait de l'album Ars Kelly de Bruxelles, du duo Bruxelles, sur Radio Libertaire, dans l'émission Les Oreilles Libres. Et je vous propose d'écouter la fin de l'interview de Bruno Florence et Hugo Roussel.
J'aimerais qu'on parle du concert d'hier, des concerts en général. Est-ce que vous donnez des consignes avant de jouer? Est-ce que vous faites une trame? Comment ça s'est passé hier avec ce chanteur Steve Gander dont on reparlera après? Comment se construit le concert? Pour moi, c'est pas de l'improvisation totale.
Avec Steve, non, c'était pas de l'improvisation totale. Ouais. Dans la mesure où lui n'est pas un improvisateur, en fait.
Ah oui.
Lui est plutôt un chanteur qui vient d'un autre milieu du rock, milieu, ce genre de milieu-là. Donc on l'a rencontré le jour où on l'a rencontré, il y a 2 jours de ça. Il nous a proposé d'écouter nos matières. Il a écouté, il avait des textes. Et après, effectivement, il nous a dit, bon ben voilà, moi je pense que je pourrais mettre ce texte-là sur votre matière-là, ce texte-là sur notre matière-là. Et après, c'est un compromis en nous disant, bon ben voilà, c'était plus un format effectivement de chanson, entre guillemets. Voilà. Après, le compromis, c'était est-ce qu'on s'arrête à la fin de chaque matière, chaque texte, ou on ne s'arrête pas. On a pris le compromis de s'arrêter. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Bon, ça, c'est une autre histoire.
C'était une bonne idée dans la mesure où on ne l'avait jamais fait.
Voilà.
Donc, au moins, on sait, quand on a un peu de recul par rapport au concert, on sait si faudrait essayer de continuer là-dessus ou si c'était une très mauvaise idée. Mais en tout cas, on l'a fait. Donc maintenant, on sait qu'on peut se dire oui, non.
Parce qu'avant, en fait, c'était une pièce en continu.
Ça a dépendu des fois, en fait. Mais effectivement, non, il y a eu par rapport... C'était plusieurs petites pièces, mais ça restait quand même une improvisation, en fait. Donc plus dans le format improvisation, de 20 minutes, et avec une pause au milieu, peut-être un moment de silence, et ça recommence.
Ouais,
mais plus dans le format improvisation, classique.
Parce que lui, Steve Gander, il vient d'où, en fait? C'est un chanteur
C'est un chanteur, il est influencé par des gens comme... Cohen,
Leonard Cohen,
Tom Waits, des choses comme ça, quoi.
Attends, il a la voix de Captain Beefheart. Hein.
Ah ouais, effectivement.
Mais enfin, il a la voix. Il fait vraiment penser à Captain Beefheart. Et c'est ça. Vous l'avez rencontré comment ce garçon? Parce que quand tu dis on l'a rencontré, c'est vous avez répété il y a 2 jours.
Ouais, il y a 2 jours. On l'a pas rencontré il y a 2 jours.
Presque, en fait. Il y a 2 jours, il est venu pour une journée qu'on se cale avant le concert, parce qu'effectivement, il fallait quand même... On avait juste échangé par email avant, donc il fallait quand même être un peu calé là-dessus. Mais on l'a vu à Musique Action, dans un projet de Franz Oettinger, avec notamment Isabelle Dutoit aussi, qui jouait dedans. Qui s'appelait Poète Congrès. Ouais. Je sais plus le titre exact.
Ouais, il est un peu plus long.
Franz Oettinger, Poète Congrès.
Voilà.
C'est ça,
ouais. En même temps, on venait juste de faire ce 2 titres Talking Ghost, où on se disait que la voix pouvait être pas mal à intégrer. Et en l'entendant dire des textes, on s'est dit mais c'est avec cette matière-là qu'on devrait essayer de travailler. Du coup, tout bêtement, on a demandé ses contacts. On lui a demandé si ça pouvait l'intéresser de venir jouer avec nous pour Densité. Il a dit OK, puis c'est parti comme ça.
Ah ouais. Effectivement, moi je trouve qu'il y a une progression un petit peu logique entre Ars Kerry, le Talking Ghost, et puis ce que vous avez fait hier avec Steve Gander. Est-ce que vous savez si ça va être pérennisé avec lui? Est-ce qu'il y a des suites? Est-ce qu'il y a des...
On n'a pas parlé. Je crois qu'il était assez satisfait de du concert d'hier. Donc je pense qu'effectivement, on peut envisager de travailler. Moi, en tout cas,
s'il y a
des
programmateurs qui sont prêts à nous inviter, on est prêt à rejouer avec lui. Il n'y a pas de souci.
Je les encourage.
Voilà. Après, l'idée... effectivement, nous, on a l'idée de faire un deuxième album. Donc, même si je disais tout à l'heure que... Les albums, je m'en...
Ah non, mais là, je pense que c'est vrai.
Mais peut-être, après,
Et quand vous aviez le dos tourné, je lui ai demandé en cachette. Et il m'a répondu, oui. Donc hier vous jouiez avec Steve Gander, mais vous avez également fait des performances avec Marie Cambois. Et à chaque fois le nom de Bruxelles change en Bruxelles, Bruxelles hier. Alors déjà d'une part, quelle nécessité avez-vous à vous adjoindre à une troisième personne? Et le fait que aussi que vous mettiez son nom dans le nom du groupe, c'est un peu plus que Bruxelles joue avec, c'est vous l'intégrez dans le groupe. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, cette...
Non, mais c'est juste que en fait, on a toujours envisagé ça comme comme un groupe modulable. Voilà. Donc le nom l'est forcément aussi. À la base, Bruxelles, ça, c'est juste la contraction de Bruno, Florence et Hugo Roussel. Et ça nous est juste marré parce qu'effectivement ça faisait le nom de la ville, parce que il y avait au même moment, je me souviens, c'était le duo Jean-Philippe Gross et Claire Cooper, où c'était Nevers. Et il y a aussi Dominique Repeco qui a un trio avec Anthony Laguerre et Antoine Arlot qui s'appelle Prague. Donc, mais voilà, et du coup, c'était cette espèce de connerie de nom de ville qui n'en était pas. Et puis après, finalement, on s'est dit que c'était aussi intelligent Bruxelles comme nom de groupe que les Beatles ou les Sex Pistols. Donc on l'a gardé. Et effectivement, après, on n'aime pas cette idée de dire Bruxelles invite. C'est ouais. Parce que du coup, c'est plus un vrai trio, c'est un duo qui est une troisième personne. Donc la manière la plus simple pour faire comprendre aux gens que c'est un vrai trio, même si c'est un trio unique, enfin qui joue qu'une seule fois, c'est de l'intégrer dans le nom du groupe, quoi.
Ouais. Et sur quelle base vous choisissez la troisième personne? C'est quoi? C'est des coups de cœur? C'est comme ce chanteur, vous avez vu
C'est des histoires, c'est comme ça.
Tu sens que ça va se passer.
Ouais, en tout cas, on a envie d'essayer. Et puis
on avait essayé aussi avec Thierry Madio, ça s'est pas finalisé, on avait essayé avec Dominique aussi.
D'accord.
Et oui, c'est...
Après, par exemple, on voudrait essayer avec Jean-Philippe Gross, parce que le titre, le nom du groupe, ça serait...
Bruxelles.
Ouais. Et comme ça faisait un peu marque de chaussure, on se disait que ça pouvait être cool de juste essayer pour ça, en fait.
On voit les motivations des amateurs.
Ah oui, on est super sérieux, on a une démarche très conceptuelle comme ça.
On va écouter... alors je voulais vous demander, mais tu m'as niqué ma question. c'est bien. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui est crépusculaire en vous?
Ça, je ne sais pas.
En nous?
En nous.
Parce que tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez plutôt joyeux.
Ouais,
je
ne pas.
Je confirme.
Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment l'addition de nous deux qui fait que... Mais sinon, individuellement, avec Bruno, on se voit assez régulièrement en dehors de tout ça pour boire des verres et tout ça. On n'a jamais été, dans les cimetières boire des bières ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est...
Si, j'ai dû dormir une fois, moi, dans un cimetière.
Ouais, moi aussi. Mais on n'était pas ensemble. Et en même temps, on n'écoutait pas Cure ou je sais pas quoi, tu vois.
Si, j'ai écouté Cure.
Oui, toi, t'as écouté Cure. Mais quand t'étais jeune. Et en même temps, tu l'as pas cité comme référence, donc ça t'est passé.
Est-ce qu'il y a des... parce que moi, je suis pas non plus... je suis un animateur radio autodidacte. Donc, je sais pas si je pose les bonnes questions. Mais en tout cas, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez dire en plus, que j'ai pas pensé à vous demander? Et après, on écoutera un extrait du concert.
Je partirai pas. En fait, je voulais juste dire que c'était vraiment bien d'avoir encore des radios qui puissent être libres et animées par des gens qui sont plus des passionnés que des professionnels formés, etc., etc. Parce que c'est aussi ça, la liberté, c'est un moment de se dire, on n'a peut-être pas le bagage, mais comme nous, en fait, quand on fait de la musique, on n'a peut-être pas le bagage éducatif qui va avec, et on fait peut-être des petites conneries, on dit peut-être des trucs comme il ne faudrait pas les dire, mais au moins on les dit, on les fait. Et je pense que c'est important, surtout à l'époque actuelle, que des structures comme ça existent et soient défendues et soient pérennes. quelque part, même si c'est que à la force de la passion et de la nécessité et des convictions politiques, même si on est sur des convictions anarcho-libertaires, ça reste quand même politique dans le sens large du terme. Et du coup, voilà. Et du coup, je trouvais ça bien que ça soit, que ça existe encore, parce que quelque part, pour d'autres personnes qui sont dans d'autres domaines, ça donne aussi la force de continuer des combats qui sont dans l'associatif, qui sont dans l'art, qui sont dans voilà, même si c'est pas tout à fait, c'est pas forcément des radios, mais c'est juste une existence, montrer que un autre type de société peut exister, ou de non-société d'ailleurs, peut exister. C'est pas forcément du Skyrock, et c'est pas forcément du Fnac, et c'est pas forcément des conneries comme ça, quoi.
Bon, bah, c'est super, ça.
Merci. Pardon, je me suis un peu emballé.
Bon, c'est bon.
Merci.
Bah, merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Et puis bravo surtout. On écoute donc le concert.
Et bravo à vous.
Bravo.
Bah, merci beaucoup Bruno et Hugo. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, l'émission Les Oreilles Libres. On va effectivement écouter un large extrait du concert de Bruxelles, donc Bruxelles, et avec Steve Gander, le chanteur que on a pu écouter la semaine dernière dans le Franz Hodzinger Poète Congress, qui illustrait un petit peu notre émission sur la route, puisqu'ils ont ils ont fait ce disque Weltallende à propos des œuvres et des écrits de August Valla. Je voudrais signaler, remercier encore bien sûr le Festival Densité, Emmanuel Pellegrini, mais également Michael Goupillot, qui a enregistré le concert le 24 octobre 2014 lors de la 21e édition du Festival Densité à Fresnes en Wavre. Le concert a été mixé par les Bruxelles. Fresnes en Wavre, je précise ça puisqu'on va... Il y a une courte annonce de Steve Gander avant le concert. Eh bien, bah, je vous propose d'écouter ça. Steve Gander, une courte annonce, puis trois morceaux extraits du concert, du fabuleux concert de Bruxelles, le 24 octobre dernier, à Densité.
Good evening on Radio Libertaire, anarchist radio in France, broadcasting to the whole world on the internet. Well, here we are in Fresnes en Wavre. Comment on dit?
Wavre.
Wavre. Some say Wavre, some say Wavre. Nous sommes en Fresnes en Wavre. Les bijoux. En anglais. Giving her the all-conquering air of a slave who knows how to be cruel. A slave who likes to be cruel. This glistening world of metal and stone, when laughing sound so mocking and bright, I'm ravished in ecstasy, whipped to a fury by these things where sound is mixed with light. Ah, her jewels. Herself be loved from the height of the bed. smile down on me. Rise into her like a wave to a cliff, with love as wild and deep as the sea. Thank you. plate glass windows. The restaurant, empty, except for one woman and the waiters clearing up the tables. She sits with her back to the plate glass window, reflecting the scene inside. And behind her, the Mediterranean Sea goes all the way south to Alexandria. And the wind's whipping up on the beach, whipping up the sand. She stayed alone when the others left, struggling with her mobile phone. She lights a cigarette, takes a sip of wine but spills it, wipes with a cuff. The waiters look at her and look at each other, wondering why she stayed there all alone with the wind blowing outside across the beach all the way down to Alexandria. There's no connection tonight. There's no connection tonight. On her mobile phone. Merci beaucoup. Nous jouons la, comment on dit, the last number of the evening. A call from a 19th century novel. She arrived as a call from a 19th century novel. I couldn't place the work, the author, or the character. But when we met, I recognized the telltale signs. The wild, sparkling eyes,
the pre-Raphaelite hair, the wild sighs and the wild smiles and the sadness that settled on her face at rest, and then the grand gesture of the swoon. Nothing's gonna be the same. Nothing's gonna be the same. Nothing's gonna be the same again. Face cracked and she began to cry. It all came out, the intricate plot, the myriad characters, the unhappy love affair, as her story unfolded right up to the cafe where my character entered the action. And later she said, I've just got to get unmasked. Nothing's gonna be the same. Nothing's gonna be the same again. Florida. Funny that I wanted that line in the book as I sat there planning the next twists in the plot, as if I were the author of this work and I could write the ending that I wanted. Nothing gonna be the same. Nothing's gonna be the same. Nothing's gonna be the same again.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. L'émission Les Oreilles Libres va s'achever. Alors nous venons d'écouter un large extrait du concert de Brugancel, concert enregistré par Michael Goupillot le 24 octobre 2014 lors de la 21e édition du festival Densité à Fresnes en Wavre. Alors les morceaux que nous avons écoutés s'intitulaient Jewels, Mobile Phone et 19th Century Novel. Quelques annonces avant de nous quitter. Vendredi 14 novembre, ce soir, donc à 19h, rencontre et débat avec Gaetano Manfredonia pour l'ouvrage « Histoire mondiale de l'anarchie » aux éditions Textuel et Arte. De la Russie au Japon, en passant par l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Argentine, Israël ou l'Égypte, et bien d'autres pays encore, Gaetano Manfredonia présente ici une fresque de l'anarchie en une centaine de séquences de 1789 à nos jours. Ces récits documentés et vivants mettent en scène les acteurs et les penseurs qui en ont construit les étapes historiques majeures dans leur contexte social et politique. L'entrée est libre et ça se situe bien sûr à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Alors ce soir également à 19h30, de la musique, spectacle dans ces musiques, le corps de l'ombre d'Elsa Voliaston et de Frédéric Blondy. Frédéric Blondy qui sera notre invité dans deux semaines, je crois. Compagnie One Step, deuxième volet, Vivre commence toujours maintenant. Chorégraphie et interprète, donc Elsa Voliaston et musique et piano, Frédéric Blondy. Ça dure 45 minutes, ça coûte 10€ et c'est au studio Le Regard du Cygne, 210 rue de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Dimanche 16 octobre, de 13h30 à 17h30, rencontre Publico au Centre culturel La Clé. La librairie du Monde Libertaire vous invite au Centre culturel La Clé pour une après-midi d'information et de rencontres sur le Kurdistan et Cuba. Le mouvement libertaire aujourd'hui à Cuba, groupe d'appui aux libertaires et aux syndicalistes indépendants de Cuba. Projection d'un film sur le Forum social de La Havane de 2011, organisé par l'Observatoire critique de La Havane, suivi par un débat animé par Daniel Pinos. Une révolution sociale au Kurdistan, débat sous un angle libertaire, buffet latino permanent, réalisé par l'émission Tribunal Latino Americana de Radio Libertaire, en soutien à la librairie du Monde Libertaire. Voilà, c'est entrée libre et c'est au Centre culturel La Clé, 21 rue La Clé, dans le 5e arrondissement de Paris, métro Sancier d'Aubenton. Voilà. La semaine prochaine, l'émission prévue avec Deborah Walker est annulée et reportée en 2015. On la recevra en 2015. Notre ami Yves-Marie Mahé a eu la gentillesse de nous concocter au pied levé une émission autour de Théo Acola. Alors, je vous lis le pitch de l'émission. À l'occasion des concerts parisiens de Théo Acola des 22 novembre et 12 décembre, retour sur la carrière du musicien d'origine américaine vivant en France depuis la fin des années 70. Producteur du premier album de Noir Désir et fondateur des groupes Orchestre Rouge et Passion Fodder, il entame une carrière solo en 93, hantée par la guerre d'Espagne. Ses textes et ses livres y font constamment référence. Cette émission comportera bien évidemment des extraits de sa discographie, mais aussi des bouts d'entretien. Et mieux que ça, puisqu'aux dernières nouvelles que Yves-Marie m'a envoyées ce matin, il a réussi à obtenir un entretien avec Théo Acola, qui devrait enregistrer cette semaine, et afin de pouvoir vous le diffuser vendredi prochain. Merci et bravo à lui. On ne manquera pas d'être à l'écoute. J'espère que nos auditeurs seront à l'écoute vendredi prochain pour cette émission exceptionnelle. Autour de Théo Acola et avec la participation de Théo Acola. J'en profite pour signaler que Yves-Marie Mahé a réalisé un documentaire pour Radio France, pour France Culture. Je l'ai écouté ce matin, d'ailleurs, c'est excellent. Ça s'appelle Michel Naudy, de l'antenne au placard, et c'est l'émission de France Culture sur les docs du 8 octobre 2014. Voilà, si vous voulez la réécouter, la podcaster, comme vous pouvez écouter, podcaster toutes les émissions de Radio Libertaire en allant sur le site de la radio. Vous pouvez écouter et podcaster les émissions jusqu'à 5 semaines. Et je signale encore une fois que notre émission a son propre site internet désormais qui est fonctionnel et sur lequel vous pouvez écouter les émissions depuis la rentrée, depuis le 5 septembre. Le site, c'est Les Oreilles Libres, tout attaché sans point, sans rien, lesoreillesLibres.free.fr. Et donc, voilà, vous pouvez écouter les émissions depuis la rentrée. J'espère qu'on pourra un jour écouter toutes les émissions de 2014, de 2013 et de même avant. Voilà. On va se quitter avec un dernier extrait de l'album Askeri de Bruxelles qui s'intitule Youxour. Et bien moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut.